Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de l'édition du 24 octobre 2014 en direct du studio 13 de la VOA à Washington. Avec vous, Nathalie Barge, en compagnie de Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, un médecin américain ayant traité des victimes d'Ebola en Guinée atteint du virus. Le cas a été diagnostiqué à l'hôpital à New York.
Premier cas d'Ebola au Mali, une fillette venant de Guinée.
C'est un cas qui nous est parvenu de la Guinée. C'est une fillette ramenée par sa grand-mère. Elle a été prise en charge. Son état de santé s'améliore considérablement. Cela est un motif de satisfaction pour nous.
C'était le porte-parole du ministère de la Santé du Mali, Markati Ndaou.
Poursuite des raids de l'aviation américaine contre les djihadistes en Irak et en Syrie.
L'Ukraine déploie 82 000 policiers pour sécuriser les élections de dimanche.
Démission du gouverneur de l'État mexicain de Guerrero un mois après la disparition non élucidée de 43 étudiants.
Et en fin d'émission, les sports et la page musicale, mais d'abord le journal. Un médecin américain qui a récemment traité des victimes d'Ebola en Guinée a contracté le virus, selon les résultats préliminaires des tests effectués à l'hôpital Bellevue de New York. Lors d'une conférence de presse hier soir, le maire de New York, Bill de Blasio, a confirmé le cas, disant qu'il n'y a pas de raison de s'alarmer et que le docteur Craig Spencer a été placé en isolement. Les CDC vont procéder à un deuxième test pour confirmer les résultats. Plus tôt jeudi, le docteur Spencer avait informé Médecins Sans Frontières, pour qui il travaillait en Guinée, qu'il avait une forte fièvre et des nausées. Les autorités américaines sont maintenant à la recherche de tous ceux qui peuvent avoir été en contact avec lui.
D'autre part, les autorités maliennes ont confirmé le premier cas d'Ebola au Mali. Il s'agit d'une fillette de 2 ans qui est revenue de la Guinée. Le porte-parole du ministère malien de la Santé, Markati Ndaou, a dit à la VOA que l'état de santé de l'enfant s'améliore et que la situation pour prévenir l'introduction et la propagation du virus au Mali est sous contrôle.
Selon les résultats d'un test effectué sur une fillette de 2 ans, qui était il y a quelques heures un cas suspect, et qui est devenu désormais le premier cas avéré de la maladie à virus Ebola. Sur ce sujet, nous disons quand même que ce cas n'est pas le résultat d'une défaillance de nos dispositifs. Bien le contraire, nous pouvons dire que c'est le résultat d'un travail bien fouillé grâce à la vigilance surtout de nos équipes prépositionnées en différents endroits du pays. Donc, qui a permis en tout cas de prendre en charge cette fillette-là et aujourd'hui d'identifier aussi tout ce qui peut pratiquement demeurer les personnes contact avec elle.
Markati Ndaou, chargé de communication au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Mali, que nous entendrons tout à l'heure dans la rubrique dossier.
L'Assemblée nationale du Burkina Faso débattra le 30 octobre du projet de loi portant convocation d'un référendum sur la modification de l'article 37 de la Constitution. Une mesure qui permettrait au président Blaise Compaoré de briguer encore un mandat en 2015. Chérubin Dorsil.
Selon le président de l'Assemblée nationale burkinabé, Sangalo Apollinaire Ouattara, les députés burkinabés se sont prononcés hier par 98 voix sur 127 en faveur de l'inscription du projet de loi à l'ordre du jour le 30 octobre. L'article 37 de la Constitution interdit au président Blaise Compaoré de se porter candidat en 2015 et la majorité n'a jamais caché sa volonté de le modifier. Selon le projet de loi qui circule, le président de la République sera rééligible 2 fois au lieu d'une fois en cas d'adoption de la mesure. Une disposition est également prévue pour interdire toute modification ultérieure une fois la question du mandat présidentiel tranchée. Arrivé au pouvoir à la faveur du coup d'État de 1987, le président Blaise Compaoré a effectué 2 septennats et achève l'année prochaine son second quinquennat. La question de la modification de la Constitution divise les Burkinabés. Dans l'espoir de dégager un consensus, le président Compaoré avait convoqué un dialogue entre la majorité et l'opposition. Les 2 camps ayant campé sur leur position, les discussions se sont achevées en début de mois sur un constat d'échec.
Après les manifestations contre les casques bleus dans l'est de la RDC, la mission onusienne promet de mener des actions militaires contre les rebelles ADF Nalu d'origine ougandaise, accusés de massacres en territoire de Beni. Lionel Gaïma.
Martin Kobler, chef de la mission onusienne en RDC, et Saïd Djenit, envoyé spécial de l'ONU dans la région des Grands Lacs, ont effectué hier une visite en territoire de Beni. M. Kobler a promis des actions pour combattre les rebelles ADF. Il a ajouté qu'il y a eu des massacres à Oicha, Eringeti et ailleurs et que cela doit cesser. Toutefois, Martin Kobler n'a pas précisé les dates des futures opérations. M. Djenit a de son côté demandé à la population locale de soutenir les opérations menées par les FARDC et la MONUSCO. Environ 80 personnes ont été assassinées en moins de 15 jours dans la région par les présumés rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées ou ADF. Après ces tueries, des jeunes ont mené plusieurs manifestations hostiles au casque bleu dénonçant leur inaction. À Mbao, au nord de Beni, deux personnes ont été tuées mardi soir. De jeunes y ont pris à partie une patrouille mixte FARDC-MONUSCO.
La première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, a sommé la vice-présidente Joyce Mujuru de démissionner, l'accusant de corruption et d'incompétence. Madame Mugabe n'a pas écarté la possibilité de succéder à son époux, Michel Joseph.
Lors d'une réunion hier de l'Organisation des anciens combattants zimbabwéens, Madame Mugabe a laissé entendre pour la première fois qu'elle aimerait bien succéder à son époux de 90 ans qui dirige le Zimbabwe depuis 34 ans. Ils disent que je veux être présidente. Pourquoi pas? Ne suis-je pas zimbabwéenne? A demandé la première dame en langue Shona, ajoutant à l'intention de la vice-présidente Mujuru. À moins que vous seul ayez le droit de diriger le Zimbabwe. Nous disons aujourd'hui, allez-vous reposer et laissez ceux qui sont capables de prendre la relève. Comme pour s'assurer d'avoir été bien comprise, Madame Mugabe a martelé, il y a de nombreuses personnes à même de diriger ce pays, pas Mujuru. La vice-présidente Joyce Mujuru dirige une faction informelle de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, et serait en concurrence avec Emmerson Mnangagwa, le ministre de la Justice pour la succession du président Mugabe. Grace Mugabe, qui est née en Afrique du Sud il y a 49 ans, ne l'entend apparemment pas de cette oreille. Pour l'heure, elle bat campagne pour diriger l'organisation des femmes de la ZANU-PF.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Poursuite des raids de l'aviation américaine contre les djihadistes en Irak et en Syrie. Le commandement central a annoncé avoir mené hier 9 attaques en Irak, dont 4 sur des positions des insurgés près du barrage de Mossoul et 3 au sud de Fallujah. L'armée américaine dit avoir mené 6 attaques aériennes en Syrie, dont 4 près de Kobané au sud de la frontière turque, où les Kurdes tentent de repousser les islamistes depuis des semaines.
Les autorités canadiennes disent que le tireur qui a tué un soldat mercredi avant d'être abattu dans le bâtiment du Parlement à Ottawa a agi seul. Lors d'une conférence de presse jeudi, les responsables canadiens ont dit que Michael Zeaf Bibo était né au Canada et qu'il avait peut-être aussi la nationalité libyenne. Selon les autorités, il a récemment demandé un passeport canadien et espérait se rendre en Syrie. La gendarmerie royale du Canada a dit que ses antécédents ont été vérifiés quand il a demandé un passeport, mais que seules des informations non confirmées indiquaient qu'il avait un lien avec une personne connue des autorités.
Affirmant que la Russie pourrait tenter de perturber les élections dimanche en Ukraine, le Premier ministre ukrainien a dit avoir ordonné une mobilisation rigoureuse de sécurité pour éviter ce qu'il appelle de possibles attaques terroristes. Arseniy Yatsenyuk a pris la décision hier lors d'une réunion à Kiev avec les responsables de la sécurité et des observateurs électoraux. Le ministre de l'Intérieur, Arsène Ivakov, a annoncé que 82 000 policiers assureront la sécurité, dont 60 000 pour les bureaux de vote.
Au Mexique, le gouverneur de l'État de Guerrero a démissionné près d'un mois après la disparition non élucidée de 43 étudiants. Les élèves d'une école normale de formation en milieu rural ont été portés disparus après un affrontement avec la police dans la ville d'Iguala le 26 septembre. Les circonstances qui ont conduit à la violence restent floues. Cependant, 6 personnes ont été tuées sur les lieux et une dizaine ont été blessées quand la police et des civils armés ont ouvert le feu sur 3 bus transportant les élèves. Les autorités ont ordonné l'arrestation du maire d'Iguala, de son épouse et d'un adjoint, alléguant que le trio serait l'instigateur de l'attaque. Des dizaines de policiers locaux et des membres du gang de la drogue Guerrero Unidos ont été arrêtés dans le cadre de l'affaire.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la VOA avec vous Nathalie Barge. Les autorités maliennes ont confirmé le premier cas d'Ebola dans le pays. Il s'agit d'une fillette de 2 ans qui est revenue de la Guinée, un des pays les plus touchés par l'épidémie. Dans un entretien avec la VOA, le porte-parole du ministère de la Santé affirme que ce cas ne révèle aucune défaillance dans les dispositifs mis en place pour prévenir l'introduction et la propagation du virus au Mali. Écoutez Markatié Ndaou, joint par Chérubin Dorcy à Bamako.
Présentement, elle se trouve à Kaï. C'est un cas qui nous est parvenu de la Guinée. C'est une fillette qui a été ramenée par sa grand-mère au bercail. Nous sommes en train de suivre toute la situation et elle-même, elle a été prise en charge. Son état de santé s'améliore considérablement. Cela est un motif de satisfaction pour nous et cela nous donne espoir. Je profite de l'occasion pour dire à la population de ne pas céder à la panique, comme quoi il y a en tout cas l'espoir que quelqu'un qui fait la maladie à virus Ebola puisse quand même guérir. Donc, que les gens sachent cela, et cela est très important. Au-delà de l'équipe d'intervention rapide qui agit quand il s'agit de cas suspects, il y a aussi d'autres équipes qui sont spécifiquement chargées du suivi des contacts. Donc, toutes ces équipes-là sont à pied d'œuvre pour mener à bout les missions qui leur sont confiées.
Ces équipes sont entièrement maliennes?
Oui, ces équipes sont entièrement maliennes, mais qui ont bénéficié de l'expertise des équipes de l'OMS, du CDC d'Atlanta ou du NIH.
Pouvez-vous résumer pour nous, Monsieur Dao, les mesures actuellement prises par le gouvernement de Bamako pour prévenir justement la propagation du virus dans le pays?
Effectivement, je vous dis que les mesures qui sont prises pour éviter l'introduction et la propagation de la maladie sont des mesures qui ont été appréciées par des experts internationaux. Pas plus tard que 3 semaines, il y a le directeur de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé qui est passé à Bamako et qui a eu l'opportunité d'aller sillonner les frontières où se trouvent en tout cas nos équipes de contrôle et de prévention. Donc, il s'en est fortement réjoui du dispositif mis en place. Mais lorsque ça se passe bien et que nous-mêmes nous apprécions, il faudra quand même qu'il y ait un œil extérieur pour évaluer les choses. Et dans ce cadre-là, il y a une équipe présentement de l'OMS qui est à Bamako et qui a évalué aussi notre dispositif, qui trouve que le dispositif en tant que tel est bon, qui a signalé quelques défaillances, et cela est vraiment inhérent à tout système de santé africain ou d'autres pays en développement. Pour l'heure, nous ne pouvons pas dire que ce cas est un résultat d'une défaillance dans notre système.
C'était Markatié Ndaou, chargé de communication au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Mali. Vous pouvez suivre l'intégralité de cet entretien sur notre site voaafrique.com.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
À l'issue d'une réunion hier à Genève, le comité d'urgence de l'OMS sur Ebola s'est encore opposé à tout embargo contre les déplacements ou le commerce avec les 3 pays en Afrique de l'Ouest les plus affectés par l'épidémie. Camille Grosdidier.
L'épidémie reste une urgence de santé publique de portée mondiale, selon le comité d'urgence de l'OMS, qui a fait état de plus de 9 900 cas et de près de 4 900 décès en Guinée, Sierra Leone et au Libéria. Il ne faut pas imposer d'embargo contre les voyages ou le commerce, car ce serait inefficace et contre-productif, a estimé le comité. Néanmoins, a déclaré le docteur Isabelle Nuttall, une des responsables du dossier Ebola à l'OMS, les personnes infectées ou qui ont été en contact avec des malades dans les 21 jours précédents ne devraient pas quitter leur pays. Les responsables de l'OMS ont expliqué certaines des raisons pour lesquelles ils ne recommandent pas une interdiction générale des déplacements, en disant que ce serait de nature à causer un préjudice économique et pourrait en conséquence augmenter la migration incontrôlée en provenance des pays touchés, exacerbant ainsi le risque de propagation mondiale du virus à Ebola. Le comité a d'ailleurs souligné la nécessité de réduire l'isolement et les difficultés économiques des pays affectés par l'épidémie en normalisant les vols et les mouvements des navires. Le docteur Nuttall a également fait part de son incertitude face aux mesures prises par les États-Unis et d'autres pays pour contrôler les passagers en provenance des pays affectés par l'épidémie.
It was noted by the committee that entry screening may have limited effect in...
Le comité a pris note du fait que le dépistage à l'entrée des pays peut avoir un effet limité dans la réduction de la propagation mondiale du virus lorsqu'il s'ajoute au dépistage au départ des pays concernés. Ainsi, ses avantages et ses inconvénients doivent être soigneusement étudiés, a dit le docteur Nuttall. Toujours selon le comité d'urgence de l'OMS, il n'est pas nécessaire que les pays annulent leurs rencontres internationales ou grandes réunions. Certes, il s'agit de questions complexes, a-t-il reconnu, ajoutant que les décisions devront être prises au cas par cas.
En RDC, toujours pas de gouvernement de cohésion nationale, comme l'avait pourtant promis le président Joseph Kabila lors d'un forum national il y a un an. Rétrospective dans un reportage de Dominique Dinanga de notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa.
Dans le cadre de ma politique d'ouverture, prônée depuis mon investiture, un gouvernement de cohésion nationale sera bientôt mis en place. Il comprendra aussi bien des représentants de la majorité que ceux de l'opposition et de la société civile.
C'était la promesse faite par le président Joseph Kabila il y a un an à l'issue des concertations nationales, forum qui avait regroupé les délégués de la majorité au pouvoir, une frange de l'opposition et la société civile. Une année après, le gouvernement de cohésion nationale n'est toujours pas formé. Les partis d'opposition qui avaient boycotté ces travaux, en tête l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi, avaient prédit l'échec de ces discussions. Joseph Kapika est porte-parole de l'UDPS.
L'UDPS les avait qualifiés d'une rencontre entre les laboureurs et ses enfants. Je crois que c'est même pire que cela parce qu'aucune des résolutions prises par ceux qui avaient participé là-bas n'a été exécutée. Leur fameux gouvernement qui allait sceller la cohésion nationale n'a pas vu le jour. C'est le mécontentement dans les rangs de ceux qui avaient pris part à ces fameuses concertations-là. J'apprends même qu'il y a des gens qui attendaient être ministres qui ont fait des AVC.
Pour Jean-Pierre Lisanga Bonganga du Front Populaire, participant aux concertations nationales, il faut aller vers un dialogue inclusif avant la formation d'un gouvernement de cohésion nationale.
Nous avons compris qu'aujourd'hui, une année après, la nécessité aujourd'hui c'est de lancer le dialogue qui doit réunir tous les Congolais. Donc cette affaire d'un gouvernement de cohésion et de ceci s'est dépassée. Cette affaire est tellement aujourd'hui dépassée que ça ne sert à rien. La preuve est qu'au sein même de la majorité, il n'y a pas de cohésion. On va faire ce gouvernement comment? Au niveau de l'opposition, même ceux qui étaient aux concertations demandent le dialogue. Alors à quoi ça servirait?
À la majorité présidentielle, on est formel. Le chef de l'État respectera sa promesse, celle de former un gouvernement de cohésion nationale, a dit récemment à Top Congo FM, Obe Minako, président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle.
La République aura un gouvernement de cohésion nationale et ce gouvernement va nécessairement mettre les bouchées doubles pour rattraper ce temps, étant donné que pour y arriver, compte tenu du contexte complexe de la République et compte tenu des enjeux futurs, il fallait y aller calmement avec méthode.
Depuis Kinshasa, Dominique Dinanga, Top Congo FM pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Aux Émirats arabes unis, des travailleuses domestiques migrantes sont battues, exploitées et piégées dans des situations de servitude. Selon un rapport de Human Rights Watch, des précisions avec Morgane Guiriec.
En réalité, et les analystes à travers le Moyen-Orient ne l'ont jamais caché, les conditions de vie de ces travailleuses sont déplorables. Elles viennent, pour la plupart, d'Asie et d'Afrique et sont victimes d'abus généralisés. La Philippine Marely Broua est une ancienne travailleuse domestique aux Émirats Arabes Unis. Marely dit avoir une fois signalé à sa patronne qu'elle n'avait rien à manger, pour s'entendre dire « Tu n'es que quelque chose que j'ai acheté. Tu n'as pas du tout le droit de te plaindre parce que nous t'avons acheté. » Rotna Begum de Human Rights Watch fait remarquer que la plupart des femmes arrivant dans le pays ne savent pas ce qui les attend.
Tens of thousands of women every single year migrate to the United Arab Emirates.
Des dizaines de milliers de femmes arrivent chaque année aux Émirats Arabes Unis après avoir dit au revoir à leur famille et à leurs très jeunes enfants. Elles espèrent qu'elles gagneront des salaires qui assureront des lendemains meilleurs à leur famille. Mais elles n'ont aucune garantie pour de tels salaires ou de bonnes conditions de travail. Les travailleuses domestiques interviewées pour ce rapport ont dit qu'elles n'étaient parfois pas payées, n'avaient pas de temps de repos ou de jours de congé, étaient confinées dans la résidence de leur employeur et surchargées de travail, avec, dans certains cas, des journées de 21 heures. Elles ont affirmé être parfois privées de nourriture et soumises à des sévices psychologiques, physiques et sexuels. Beaucoup d'entre elles ont affirmé que leurs employeurs les traitaient comme des animaux ou comme si elles étaient impures et risquaient de contaminer leur entourage. Pour Human Rights Watch, cette situation ne changera pas tant que le système de parrainage des visas appelé kafala aux Émirats Arabes Unis sera en vigueur. Il signifie que ces travailleuses domestiques ne peuvent changer d'emploi sans l'aval de leur patron, ce qui place beaucoup d'entre elles dans une situation où elles subissent des mauvais traitements. Audrey Guichon de l'ONG Anti-Slavery International estime que la protection des droits des migrants n'est pas la seule responsabilité du pays hôte. Les pays qui envoient des travailleurs à l'étranger se doivent aussi, ajoute-t-elle, de faire plus pour sensibiliser leur population sur les conditions qu'ils risquent de vivre à l'étranger. Selon elle, les conditions des travailleuses domestiques au Moyen-Orient sont peut-être les pires qu'elle ait vues dans le monde. Pendant longtemps, explique Audrey Guichon, ce genre de travail n'a pas été considéré comme une profession et par conséquent n'a pas eu de protection juridique adéquate.
This led to creating a very weak framework of protection for them.
Cela aboutit à la création d'un très faible cadre de protection pour ces travailleuses. Un cadre où elles ne sont pas reconnues par le Code du travail, à la différence des autres travailleurs. Selon Human Rights Watch, au moins 146 000 travailleuses domestiques originaires de pays tels que les Philippines, l'Indonésie, l'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Népal et l'Éthiopie travaillent aux Émirats Arabes Unis.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui avec vous, Nathalie Barge, et à présent les sports avec Timothée Donangmaï. Bonjour Timothée. Alors c'est demain que se joue la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin à Windhoek en Namibie.
Et le duel pour le trophée opposera deux pays voisins, à savoir le Cameroun et le Nigeria. Les deux sont d'office qualifiés pour la Coupe du monde de football féminin 2015. Avant cette rencontre, sud-africaine et ivoirienne en découdront pour la troisième place au classement, mais aussi une place en phase finale du Mondial 2015 de football féminin. C'est dire qu'il y aura plus que l'honneur en jeu dans ce match.
En football africain, Timothée, toujours, l'Algérie grimpe au classement FIFA.
Première nation continentale à la 15e place mondiale, l'Algérie atteint le meilleur classement de son histoire. Victorieuse de ses quatre premiers matchs des poules éliminatoires de la CAN 2015, l'Algérie gagne 5 places. En revanche, la Côte d'Ivoire, 25e, perd 3 places. À noter la belle progression du Cap-Vert, 33e, avec 8 places de gagnées, et la plus forte hausse au profit du Togo, désormais 52e, des éperviers qui ont grimpé de 73 places en un mois.
Et en Europe, on a joué hier soir la troisième journée de la Ligue Europa.
Eh oui, match nul entre Standard Liège et FC Séville, 0-0. 0-0 également entre Lille et Everton. Young Boys bat Naples 2-0. PAOK Salonique bat Fiorentina 1-0. Et Trabzonspor de Turquie bat Lokeren 2-0. Il y a eu également cette victoire de Villarreal sur Zurich 4-1. Torino a défait HJK Helsinki 2-0. Partizan Belgrade est tombé face au Beşiktaş 0-4. Salzbourg a défait Dynamo Zagreb 4-2. Match nul entre Panathinaikos et PSV Eindhoven 1-0. Match nul également entre Inter Milan et Saint-Étienne 0-0.
Et pour terminer en tennis, Timothée, les Masters à Singapour.
Après avoir connu mercredi sa plus lourde défaite depuis 1998, Serena Williams n'a pas attendu longtemps pour se remettre en écrasant jeudi Eugénie Bouchard 6-1-6-1. L'Américaine de 33 ans, numéro 1 mondial, couronnée lors des deux derniers Masters, doit attendre le match de ce vendredi entre la Roumaine Halep et la Serbe Ana Ivanovic pour savoir si elle poursuivra ou non sa route à Singapour. Dans l'autre groupe, la Russe Maria Sharapova, numéro 2, battue 6-3-6-2 par la Tchèque Petra Kvitova, numéro 3, après l'avoir été dans son match d'entrée par la Danoise Caroline Wozniacki, numéro 8, est quasiment éliminée. Sharapova a besoin de battre Radwanska en 2-7 ce vendredi pour avoir une chance d'aller en demi-finale.
Merci beaucoup Timothée pour les sports. À présent, la page musicale avec Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Nathalie. Vous adorez Beyoncé, ne le prenez pas mal, mais vous êtes donc susceptible d'avoir une intelligence inférieure à la moyenne. Si l'on en croit le site musicthatmakesyoudumb.com, les fans de Pretty Hurt, Halo ou Crazy in Love ont un quotient intellectuel moins élevé que ceux qui écoutent la 5e symphonie de Beethoven par exemple. Même sanction pour les inconditionnels de Lil Wayne, hein, il est font pas le poids face à ceux de Radiohead ou U2. On écoute ce matin U2 dans Beautiful Day.
The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Drôle ou offensante, selon les avis, cette étude n'en demeure pas moins sérieuse. Pour ce projet, Virgil Griffith a utilisé une méthodologie précise. Dans un premier temps, il s'est basé sur une application Facebook déterminant les 10 artistes les plus entendus dans chaque campus des États-Unis.
Oui, Nathalie, il a ensuite couplé ces données aux résultats du SAT Reasoning Test pour l'admission aux universités. Ainsi, il apparaît que les adorateurs de rock et des musiques indie sont plus vifs que ceux qui écoutent de la pop ou du hip-hop comme Jay-Z ou Kanye West. Bien entendu, hein, Nathalie, l'auteur de cette analyse, Virgil Griffith, précise que corrélation ne signifie pas causalité. C'est à méditer, Nathalie.
À méditer, en effet, Roger, et je ne vous dirai pas quelle musique j'ai l'habitude d'écouter. YouTube, Beautiful Day, bah tiens, c'est du rock, ça j'écoute. Hein. Merci beaucoup, Roger.
C'est moi qui vous remercie, Nathalie. Un grand coucou à nos amis de Lafia Bougou à Bamako.
Roger Muntou, que vous retrouverez dans le RM Show à 20h, temps universel.
Clearing the sea out, see the bedroom fires at night, see the oil fields at first light, and see the bird with the leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out.
C'était Le Monde aujourd'hui avec vous, Nathalie Barge à la présentation et Anne Albertson à la mise en onde. Bonne journée et surtout bon week-end à l'écoute de la VOA.
Dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.